justification et de débat me semble quelque chose de très précieux pour animer la vie démocratique locale. Hein, donc il y a une effectivité finalement de la discussion citoyenne au regard de cette exigence de justification, c'est-à-dire cette exigence de retour. Il est légitime que les représentants ne suivent pas les citoyens, mais il est totalement obligatoire qu'ils se justifient, c'est-à-dire qu'ils répondent, qu'ils argumentent leur position lorsque les citoyens, et ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui dans la plupart des expériences de démocratie participative. Dernier point, pour lever une ambiguïté, il est hors de question pour moi de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que la démocratie représentative reste le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. La question de la responsabilité est une question essentielle et il est vrai qu'aujourd'hui, nous assistons à une dilution du pouvoir, à une dilution de l'autorité entre des tas d'instances et des tas de niveaux de gouvernement. Je pense qu'en Belgique, la situation est encore plus complexe qu'en France, que pour les citoyens, ça rend la décision illisible, que ça suscite de l'indifférence, et qu'il ne faudrait pas en plus introduire des représentants citoyens qui contribueraient à diluer encore plus la responsabilité et qui ne seraient pas élus, c'est-à-dire des représentants non élus, pour moi, ça pose un vrai problème. Il faut que tous ceux qui n'ont pas participé à la discussion dans ces instances prétendument citoyennes, puissent quand même dire leurs mots, et l'élection est encore le moins mauvais des systèmes dans ce schéma-là. Donc on garde la démocratie représentative, mais on l'enrichit systématiquement à tous les niveaux et de manière très, très, très volontariste, puisque c'est ça l'enjeu. Il faut que ce soit volontariste et que les élus acceptent de prendre des risques, ce qu'ils ne font pas la plupart du temps. Voilà, je suis très compliqué, et très, très confus, très long, excusez-moi, hein, pour ma réponse.
Merci beaucoup, Monsieur Blondiaux. David Farrell, would you like to say something?
Yes, I'll just I agree with pretty much with everything that you said, so I won't go in to repeat that. I just wanted to address the particular question that you raised using the example of the G1000, and it's a common point that is made about deliberation that you have a mix of qualifications and a mix of abilities. So you have some citizens who are clearly going to have an advantage over other citizens. And it's a common criticism. And there's a lot of research that's been done on this. And I have to say a lot, you know, it's not categorical, but a lot of the research seems to show that on the whole, it's not a huge problem, that citizens, regardless of their background, can engage. And I can certainly say on the basis of my witnessing of it, of these type of activities, that it really isn't a problem. I'll give you two examples, one from the Irish case. Okay, so I explained to you that in Ireland they only have one weekend, they're discussing one issue, and then a month later, another weekend and another issue. So that would suggest that there's going to be some at a disadvantage to others. And in the beginning, I admit that was the case. In the beginning, there were a lot of very nervous citizens who were very scared to speak, particularly with the microphone when we had plenary discussions. But that's worn down. You have a process of socialization. You have a sense of self-education by a lot of the citizen members as they become accustomed to how this operates. So that now I think it's safe to say that all the citizen members are participating very actively. But they do it in different ways. Some are more comfortable about speaking publicly, so they'll stand up to the microphone and speak at the plenary discussions, whereas others are happy to make their points at the small table discussions. But both ways are equally valid. Both ways come into the final conclusions, so they have that opportunity. So that's one. And another thing that we've done in the convention as well is on the Friday evenings we hold workshops. So at our next meeting in early February to discuss parliamentary reform, there will be a workshop on the Friday evening where they'll be given a sort of working through about how Parliament operates, how legislation is done, what are the terms that are used, so that when they start to discuss it on Saturday, they will feel a little bit more knowledgeable about it. But the other example, and then I'll stop speaking, which I think is even more interesting, is the citizen assembly model that was used in, I'll give the example of British Columbia. I was very fortunate to witness their work in progress. And one of my areas of expertise is electoral systems. So I like to think, like Jean-Benoît, that I know a lot about different electoral systems around the world. And the citizen assembly in British Columbia was discussing the electoral system for the province of British Columbia. And I met them about a third of the way through their process. They met for a whole year, once a month for a year, just discussing this one issue. And when I met them, these 160 members were experts like I have never seen. I mean, they would embarrass my students. They were asking me such detailed questions about features of electoral systems where I had to go to books to try and think of what I was going to say before I answered it. So that's the point. If you operate this thing properly, you bring everyone up to the right sort of level and they can contribute. I'll stop there.
Thank you very much. On a une personne qui a voulu prendre la parole. Monsieur, peut-être vous voulez dire quelque chose? Donc, je vous ai sur ma liste, donc si on peut commencer par madame.
Merci, mais je préfère, comme je suis parlementaire, je préfère peut-être que la parole soit d'abord donnée aux citoyens. Je pense que c'est le sujet aujourd'hui. Parole aux citoyens.
Ouais, donc il y a monsieur, puis monsieur, puis monsieur là-bas.
Bon, voilà. Moi, je suis Henri Marraine, donc président d'une association qui organise, qui forme en fait des facilitateurs pour débats participatifs. Donc, on a déjà fait ça pour certaines entreprises, certaines institutions ici, bruxelloises aussi. En fait, moi, je trouve que votre présentation du système politique actuel est assez simpliste. Vous avez d'un côté le citoyen et de l'autre côté le politicien. Mais en fait, il y a quand même quelqu'un qui joue un rôle essentiel, c'est le lobbyiste. Vous l'appelez les associations, bon, c'est un terme assez gentil. C'est particulièrement sensible dans le cadre du fonctionnement de l'Europe. Le citoyen n'a pratiquement rien à dire et on voit bien que c'est le lobbyiste qui fait tout. Qui fait toute la politique. Est-ce que, avant d'envisager vraiment un système participatif sophistiqué, on ne commencerait pas par essayer de réduire leur influence sur les décisions politiques et puis après favoriser un système de référendum ou quelque chose comme ça? Mais il me semble que d'abord, il faut résoudre ce problème-là.
Voilà. Merci, monsieur. Je propose qu'on prenne donc plusieurs questions. Monsieur.
Oui, mon nom est Pierre Meutil. Je n'ai pas d'implication politique active depuis 1968, je crois. Mais la question, quand même, m'est proche et j'ai eu l'occasion, au fil des ans, d'essayer un jour de vendre au Parlement fédéral une proposition d'organisation différente des campagnes électorales, de participer à la stratégie de communication web de l'Assemblée nationale, enfin différentes choses de ce genre. Professionnellement, je pense que je m'occupe d'essayer de rationaliser les processus de prise de décision dans des situations de crise, qu'elles soient dans des institutions, des organisations non gouvernementales ou dans des entreprises. En termes de... Je crois que je trouvais particulièrement passionnant, crucial, la présentation du professeur Blondiot sur les enjeux de cette question de participation. Nous utilisons beaucoup de termes qui sont positivement valorisés, à connotation positive, sympathiques pour tous ceux qui sont présents ici. Mais en même temps, si on essaie de le réduire, c'est difficile, quel est réellement l'enjeu de cette discussion ? Quelque part, ce dont les non-dits, et c'est très bien comme ça, c'est le maintien des libertés fondamentales dans lesquelles nous nous trouvons, hein, qui ne sont pas en cause ici, et de ce côté-là, elles sont importantes. Là où ça devient un peu plus critique, c'est lorsqu'elles sont menacées ou difficiles. Et il me semble que les deux enjeux que j'essaierai de retenir sont celui de la légitimité de l'autorité, quelle qu'elle soit, il faut qu'elle puisse être acceptée quelque part, et celle de la rationalité de la prise de décision, ou de manière peut-être un peu plus abstraite, des processus dans lesquels les décisions sont prises. Parce que dans la prise de décision, il y a un conflit d'opinion, il y a des discussions, on ne sait pas toujours. Aucune décision intéressante n'est jamais certaine. Les seules décisions qui sont certaines, qui sont absolument correctes, sont celles prises par des ordinateurs. Lorsqu'une décision doit être prise par des humains, il y a nécessairement débat, opinion, enjeu, rapport de force et toutes sortes de choses. Donc comment peut-on rationaliser ce processus? Je pense que ces questions que vous avez appelées questions, je crois, de philosophie politique, sont fondamentales et doivent se replacer dans la discussion qu'on a ici par rapport à la démocratie participative. Si je regarde, qu'est-ce qui ne, j'essaye de dire très personnellement, ce qui ne va pas dans le contexte, qu'il soit bruxellois, communauté française, belge ou autre, il y a quand même deux énormes obstacles qui crèvent les yeux, que l'on n'a pas nommé ici et qu'on a souvent peur de nommer, de peur de tomber dans un discours populiste, dit-on. C'est que nous ne sommes plus en Belgique en démocratie, nous sommes en particratie. L'unification des pouvoirs législatifs et exécutifs a une explication très simple. Ce que les gens les plus puissants ou les moins impuissants du pays, les quelques rares concentrations de pouvoir qu'on a encore, sont chez les chefs de parti. Nous sommes en pleine particratie. Heureusement, quelques mesures ont été prises, je ne sais plus quand, pour que la justice reste relativement ou de manière tout à fait satisfaisante, autonome et indépendante. Le deuxième élément structurel qui est étrange, et j'ai beaucoup d'amitié pour plein de gens que je connais qui font de la politique, ce n'est pas un jugement personnel, c'est la professionnalisation de la politique. L'expression même de dire faire une carrière politique. Très souvent, lorsqu'on fait ce choix à 20 ans ou 22 ans, c'est une forme d'idéalisme. Mais on entre dans un système qui est celui de faire carrière, où comme tout un chacun sur le marché, on se bat par tous les moyens pour ne pas être licencié. Je ne sais plus quel parlementaire un jour qui m'a dit, c'est quand même drôle, les seules personnes auxquelles il n'y a pas moyen d'appliquer un C4, ce sont les élus du peuple. Parce qu'une fois qu'ils sont dans le système politique, même lorsqu'ils ne sont pas élus, ils vont se retrouver dans une entreprise, dans un cabinet, dans une administration ou ailleurs. Il y a un extraordinaire système de non-licenciement et d'autodéfense de la profession politique. Et de nouveau, j'essaye de ne pas... Ce n'est pas de inamical vis-à-vis des personnes, c'est une critique d'un système qui s'est élaboré et que plus personne, évidemment, ne peut nommer. Ou bien on a peur de le nommer, de peur de faire le jeu de Marine Le Pen et autres connards de ce genre. Et pourtant, je crois que si on veut s'adresser au problème, il faut le faire. Il faut quelque part se rendre compte que les raisons fondamentales du désamour de la population envers le pouvoir, elles sont quelque part là. Alors la question, que peut-on faire? C'est plus compliqué, sans doute. Il y a une expression du professeur Farrell que j'ai retenue. Dans ce qui a permis la mise en place de ce processus original et dynamique en Irlande, il y a un electoral earthquake, un tremblement de terre électorale. Il y a des choses qui, malheureusement, ne peuvent changer qu'avec l'aide d'une crise ou avec l'aide d'une situation perçue comme une crise, sans quoi l'inertie des structures politiques auxquelles plein de gens respectables participent est à peu près impossible à dynamiser. Si on se plante dans le contexte belge, la seule chose à laquelle je puisse penser qui pourrait redonner un petit coup de fouet, créer de l'incertitude, de l'indétermination, mais remettre un peu de vie, d'adhésion, de légitimité dans le système, ce serait d'abolir le système de vote obligatoire. Nous sommes un des rares pays à l'avoir. Je n'ai jamais très bien compris pourquoi. Je ne connais pas le discours politique, de philosophie politique, qui justifie, qui légitime ou non le vote obligatoire. Ce serait une des rares choses qui pourrait remettre un peu de dynamique chez nous.
Je crois...
Ah d'accord. Mais donc ceux qui l'ont n'en veulent pas et ceux qui ne l'ont pas en veulent. En tout cas, il me semble que, je ne sais pas sur le principe, ce serait une des manières de faire bouger le système, de réouvrir un débat. Dernière proposition timide, ce serait de demander à nos pouvoirs législatifs divers, à nos différents parlements, nous en avons un peu trop en Belgique, de s'occuper eux-mêmes de leur renouvellement. Ici, les parlements se mettent en sommeil quand des élections sont annoncées et chacun va faire de la propagande dans son coin. La propagande électorale, la communication électorale en Belgique est une connerie monumentale. Je vois des milliers de photos avec des têtes de gens. Il faut vraiment être très très bien accroché pour savoir qui ils sont, de quoi ils s'agissent, qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils en veulent faire. Est-ce qu'il n'y aurait pas une manière de réintroduire aux mains un peu de dignité et un peu de qualité dans le débat électoral, de rationalité, en disant pourquoi est-ce qu'une assemblée parlementaire qui va devoir se dissoudre, qui arrive à son terme, ne s'occuperait pas, avec les moyens de communication qui existent maintenant, c'était les forums il y a une douzaine d'années, d'essayer de mettre en place un débat rationalisé, ouvert, avec les citoyens, par exemple sur l'Internet. Il y aurait une couleur pour les interventions des candidats, une autre couleur pour les interventions des citoyens. On les encouragerait à ne pas être anonymes, à dire qu'ils sont un retraité, un pensionné, un chômeur, un travailleur, un cadre supérieur, un banquier, et à entendre leurs opinions. Je rejoins un peu l'action du lobbyisme. Lobbyisme est connoté négativement. Mais en réalité, une démocratie participative, ce sont peut-être les lobbyistes, sont peut-être ceux qui, de manière insidieuse ou explicite, essayent d'introduire un élément de participation de la société et de différents groupes sociaux dans le débat politique. Il y a des lobbies d'ONG, il y a des lobbies environnementalistes, il y a des lobbies de l'amour des animaux, il y a des lobbies dans tout. C'est une forme de participation insidieuse qui s'inscrit dans le débat politique. Pourquoi ne pas la rendre plus explicite? Et pourquoi est-ce que l'occasion solennelle de revaloriser le débat parlementaire ne serait-il pas de demander aux assemblées parlementaires de se préoccuper elles-mêmes de la qualité du débat qui mène à leur renouvellement? Excusez-moi si j'ai été un peu long.
Merci, monsieur. Monsieur Laotia attend depuis un certain temps.
Bonjour, je m'appelle Jules Pirot. Merci à tous d'être là et aux organisateurs. Quand on interroge un système politique, je me demande pourquoi est-ce qu'on n'entend pas le concept antique d'intérêt général. Voilà, merci.
Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, madame. Il y a tout au-dessus, oui. Derrière vous, madame, et puis on vous donne la parole.
Ah, allez-y, allez-y. Ok. Bonjour, je m'appelle Mathilde Mosseret, je suis citoyenne lambda. Voilà, en fait, il y a plusieurs choses qui me posaient question. Déjà, ça m'amusait beaucoup ce que M. Blondieu disait à propos du syndrome, je ne sais pas qui disait, du vieux mâle blanc, ou je ne sais pas très bien ce qu'il disait, de la difficulté, finalement, que finalement, ce sont toujours un peu les mêmes qui prennent la parole. Voilà. En fait, ce qui me posait question, c'est qu'à plusieurs moments, on parlait d'Internet, de forums, etc. J'ai pas l'habitude de m'exprimer comme ça, mais je sais pas, ça me pose question parce que souvent, en réalité, dire que les gens ont envie de se faire entendre à travers ce biais-là, j'ai un peu du mal à y croire parce que souvent, quand on voit sur les forums, souvent des avis anonymes, souvent extrêmes. Pour moi, ça représente plutôt le manque d'intérêt politique que justement l'envie de s'exprimer. Enfin, voilà, je suis un peu partagée sur cette question.
C'est tout. Merci beaucoup. Madame ?
C'est bien moi maintenant, merci. Je partage un certain nombre d'interrogations de la part de collègues ou de citoyens, notamment sur le rôle du Parlement et de ce premier pouvoir qui est le pouvoir législatif. Cela étant dit, par rapport à cette journée, la question pour moi la plus importante qui doit être posée aujourd'hui par rapport à la démocratie participative, est-ce qu'elle ne peut l'être spécialement posée par rapport aux citoyens les plus précarisés d'entre nous, les plus marginalisés, les plus touchés par une fracture sociale, comme on dit, sur le plan socio-économique, mais aussi culturel, et un certain nombre de gens même sont parfois analphabètes. Est-ce que c'est aux citoyens d'aller vers le monde politique? Est-ce que c'est aux citoyens de faire le pas ou de faire la démarche vers le monde politique ou vers cette participation citoyenne, ou bien le contraire? J'habite une commune qui est pas une petite commune. Pardonnez-moi, je ne me suis pas présentée. Mon nom est Sophia Boirfaille, je suis parlementaire. J'habite une des communes les plus grandes du royaume, la sixième du royaume, plus de 110 000 habitants. Et pendant de longues décennies, un certain nombre de quartiers étaient complètement désertés, voire ostracisés par le monde politique, parce qu'il n'y avait que des personnes d'origine étrangère ou bien des gens fortement précarisés, voire le quart monde. Et le monde politique de ma commune à l'époque, et c'est peut-être une des raisons d'ailleurs pour moi qui a consisté à avoir un militantisme et auprès de ces gens-là, ne s'occupait pas de ces gens-là parce qu'ils ne votaient pas. Un certain nombre de ces gens ne votent pas. D'où la question aujourd'hui la plus importante du droit du droit de vote dans un certain nombre de pays européens. Nous l'avons acquis, nous, en Belgique. Ça n'a pas été facile. Il faudrait aujourd'hui faire une évaluation par rapport à cette loi que nous avons votée. Mais force en tout cas est de constater que les mentalités ont changé. D'abord, dans un pays comme le nôtre ici en Belgique, la naturalisation a été fortement facilitée dans les années 90. Et un certain nombre de gens aujourd'hui ont leur mot à dire sur les partis par le suffrage universel. L'autre question aujourd'hui, c'est aussi par rapport, ça a été évoqué tout à l'heure, sur l'obligation de vote. Nous sommes évidemment un pays où le vote est obligatoire, et je serai parmi ceux qui le défendront tout le temps, parce que ceux qui ne voteront pas et ceux qui ne participent pas, malheureusement, sont les gens les plus défavorisés d'entre nous. Moi, je pense que c'est par rapport à cette question-là que la démocratie participative doit être posée. Je crois qu'il y a eu des expériences en France, mais surtout pendant les élections, où cette participation citoyenne a atteint un degré important auprès des citoyens, mais c'est surtout des citoyens qui étaient un peu militants, un peu politisés. Donc d'où la question pour moi la plus importante d'une justice, de la justice d'une démocratie participative. Aujourd'hui, donc cette participation citoyenne est plus aujourd'hui dans nos quartiers, plus une initiative privée, je dirais, citoyenne que politique. Il y a des petites démarches politiques, comme je le disais, mais aussi, surtout pendant les périodes électorales, et c'est par des comités de quartier, qui sont une initiative privée, par des associations, vous avez appelé ça, un certain nombre d'entre vous ont appelé ça le lobby, je n'aime pas comme vous ce terme-là, mais on dirait plus, ce sont des groupes de pression associatifs qui veulent aussi qu'un certain nombre de gens dans leur quartier, qui n'ont pas leur mot à dire, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils ne votent pas, parce que, etc., peuvent aussi participer. Et un certain nombre de gens, j'ai constaté, en tout cas, quand j'étais encore conseillère communale, je ne le suis plus, qu'un certain nombre de ces gens que j'ai vus complètement largués par le système politique, et bien aussi par le système socio-économique, venir au conseil communal poser des questions. On a droit, malheureusement, qu'à une question par mois, quand c'est la possibilité, mais c'est fait souvent avec des comités de quartier ou des associations, pour venir interpeller le conseil communal. Ce sont des bonnes initiatives, mais on a aussi des écoles, des enfants qui peuvent venir aussi interpeller. Je pense que cette initiative, ici au Parlement, il y a des visites de Parlement par un certain nombre d'associations qui viennent avec des citoyens. Moi, j'ai été élue pour la première fois en 1994, j'avais peut-être une expérience du militantisme très forte, mais je n'avais aucune expérience en matière d'exercice de la démocratie. Je n'avais jamais mis les pieds dans un parlement. Je l'avais mis pour la première fois en 1995 quand j'ai été élue. Et donc, mais personne ne me l'a demandé. On pensait que le parlement était un endroit fermé, qu'on n'avait pas le droit d'y être, qu'on ne pouvait pas on n'avait pas le droit d'y entrer. Je pense que les parlements aujourd'hui sont par moments, loin des citoyens, loin des électeurs. Il faudrait aussi, comme ce qu'on fait dans les communes, dans certaines communes en tout cas, que des questions citoyennes viennent être posées ici et dans les différents parlements, pour aussi faire entendre leurs demandes et leurs besoins. Merci.
Merci, madame. Il y avait encore une intervention ici, une chez monsieur, puis chez monsieur, et puis rendre la parole à nos deux intervenants, et puis je pense qu'il y aura encore un petit peu de temps de discussion. Monsieur, puis monsieur, et puis monsieur.
Oui, bonjour, Stéphane Van den Eede. Je suis collaborateur parlementaire, mais dans une autre vie, j'ai participé à l'organisation de panels citoyens et par ailleurs participé à quelques événements du G1000 il y a maintenant 2 ou 3 ans. Alors, j'entends beaucoup de fatalité dans les interventions, comme si des choses étaient écrites d'avance et figées. Je pense que le parlementarisme a plus de 150 ans et que ça mériterait de se remettre en question. Je veux dire, il y a énormément de choses qui se remettent en question. On a l'impression que le parlementarisme est la dernière chose que l'on pourrait reconsidérer, alors même qu'on se rend compte, dans beaucoup d'enceintes, que ça ne fonctionne pas de façon efficace et à la plus grande satisfaction de ceux qui y travaillent. J'entends aussi beaucoup de fatalité par rapport à toute une série de pans de la population qui apparemment ne participeraient pas. Eh bien, je pense que c'est possible. Je vais prendre juste un petit événement dans le G1000, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées pendant cette aventure-là. C'est qu'on s'est dit, mais voilà, on tire les gens au sort, on leur téléphone. Il y a quelque chose de magique, c'est quand on téléphone aux gens et qu'on leur dit, on vous fait confiance. Et c'est vraiment ça qui est magique. On vous fait confiance, vous êtes en capacité de venir, de participer, d'écouter des experts, de discuter avec vos pairs et de donner votre avis. Eh bien, ce moment-là, est vraiment décisionnel. C'est le même moment décisionnel quand les personnes sont appelées pour être dans un bureau dépouillement d'élection. C'est le même moment quand ils sont appelés pour être dans un jury d'assises. À un moment donné, une autorité légitime leur dit « on vous fait confiance ». Et c'est énorme. Et si en plus, à la fin, on leur est reconnaissant, ça permet aussi que le citoyen, soit parce qu'il participe, soit parce qu'il se reconnaît dans les personnes qui sont happé dans ce processus, s'y reconnaissent et donc se réapproprie la décision et se réapproprie l'avis qui est donné. Mais je voudrais revenir sur un moment assez magique du G1000, c'est qu'on s'était rendu compte que même en téléphonant, ça biaisait encore, parce qu'effectivement, c'est culturel de faire confiance à une autorité et de venir et de participer à quelque chose. Et donc, c'est clair qu'il y a toute une série de gens qu'on n'arriverait jamais à contacter, des personnes qui sont en grande difficulté économique, des personnes qui ne sont même pas reconnues comme existant sur le territoire belge, dans les centres pour réfugiés, les personnes qui sont analphabètes, etc. Et donc, ce qu'on a fait, et ça a pris beaucoup de temps, mais je pense que c'est vraiment un des plus beaux passages de l'histoire, c'est qu'on a été rendre visite à des associations de quartier. On était rendre visite à Lire et Écrire, qui a rassemblé 70-80 personnes analphabètes. Et donc, on venait vraiment de la lune pour eux. On leur dit, écoutez, voilà, on organise un G1000, on va réunir le 11 novembre 1000 personnes à Tour et Taxi, et on va vous demander de participer, on va vous demander de donner votre avis sur des thèmes qui, évidemment, vous paraissent lointains et peut-être hors de portée. Eh bien, on y est quand même arrivé, parce qu'on leur a dit, on vous fait confiance. Et les personnes des associations qui nous ont accueillis et qui ont joué les intermédiaires nous ont fait confiance et ont permis cette confiance-là. Et donc, c'est vrai qu'aussi, on a rencontré beaucoup d'associations dans ce processus-là qui nous ont dit toute leur méfiance par rapport au processus participatif. On a rencontré tous les présidents d'Assemblée, effectivement, dans la préparation. On a rencontré tous les syndicats. On a rencontré tous les centres d'études de partis politiques. Et on a rencontré beaucoup de réticences. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que quand on demande... quand on demande à nos interlocuteurs de jouer leur rôle, quel qu'il soit, eh bien, ils le jouent et ils jouent leur rôle. Mais la difficulté, c'est qu'en Belgique, on est toujours dans une logique de confrontation et non pas de collaboration. Ce que je voulais dire ici, en résumé, c'est qu'il n'y a pas de fatalité dans la participation comme il n'y en a pas dans le parlementarisme. La question, c'est de remettre les choses en question et de demander et de faire confiance et de donner des cahiers de charges à des personnes qui, le plus souvent, seraient prêtes à les prendre en charge.
Merci beaucoup. Monsieur ?
Oui, bonjour. Patrick Baudard de l'association Périphéria, qui anime donc pas mal de démarches de participation. Et du coup, on se retrouve bien dans le débat d'aujourd'hui. Moi, je trouve ça passionnant aussi d'avoir ce genre de débat ici, dans un Parlement, qui n'est pas nécessairement une chose habituelle. En tout cas pour des citoyens de pouvoir y venir. Donc moi je trouve que c'est très bien qu'il y ait interaction et que les parlementaires parlent aussi. Alors moi j'ai deux choses, une question et d'abord peut-être un premier commentaire. On parle du droit à la participation. Alors je trouve que c'est joli comme expression, mais je pense que ça ne veut pas nécessairement encore dire grand-chose pour la plupart des gens. Et c'est vrai qu'on plusieurs ont parlé d'experts, de lobbyistes, etc. Et moi, je revendique le droit à la non-expertise et le droit, plus qu'à la participation, le droit à la perception. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen, et moi, je ne m'estime expert de rien, mais je pense que j'ai le droit de dire quelque chose sur tout. Et ça, je pense que c'est finalement ce droit qu'il faut essayer d'arriver à mettre en œuvre, que ce soit dans des dispositifs de participation dans les quartiers ou au niveau national. Et le problème, c'est que, enfin, moi j'étais bien d'accord avec Loïc Blondiot sur la question de l'échelle comme la première limite, parce que c'est ça, c'est que dès qu'on arrive à certaines échelles, notamment territoriales, ben, on se dit, ben, moi, j'ai plus rien à dire, moi, je peux juste parler du pas de ma porte et de mon trottoir. Et donc, on ne se sent plus à leur capacité. C'est vrai que je me retrouve aussi assez bien dans la notion de la confiance. Ceci dit, je pense que la confiance, c'est pas parce que quelqu'un nous la donne, c'est quelque chose qu'on développe aussi. Et donc, pour moi, ce droit à la non-expertise et ce droit à la perception, c'est-à-dire que je peux, avec mon niveau de perception, dire quelque chose qui est utile pour le débat et qui peut avoir autant de valeur que ce qu'un expert va dire. Donc ça, moi, je revendique beaucoup ça, parce que je crois que dans les démarches de participation qu'on met en œuvre, c'est effectivement ça qu'il faut développer. Et du coup, ben voilà, je me rends bien compte aussi que tout ce qu'on dit autour de la participation, c'est aussi comment est-ce qu'on enrichit les débats des uns avec le débat des autres. Et donc, ce foisonnement qui existe finalement, je pense qu'il faut peu de choses pour le mettre en œuvre. Je pense que si on organise un débat sur la place publique demain, on a très vite du monde. En tout cas, nous, on en a déjà eu quelques expériences. C'est pas si compliqué, c'est pas de la technique qu'il faut. C'est vraiment plutôt ce parier sur le fait que c'est possible. Et il y a quand même pas mal d'expériences qui l'ont montré. Mais alors, du coup, la deuxième partie, c'est une question justement par rapport à ce qui se passe en Irlande, ou par rapport aux questions des jurys citoyens. Moi, ça me pose quand même un petit peu question. C'est vrai que je suis honnêtement dit pas un adepte de ces techniques-là, mais je les connais en même temps mal. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que finalement, on reproduit un enfermement du débat entre quelques-uns, et que finalement, on n'en fait pas un débat public. Et c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur la notion d'espace de débat public, même s'ils ne se font pas sur la place publique. Mais est-ce que toutes ces démarches-là, et l'expérience en Irlande, ou d'autres expériences qui existent de jurys citoyens, est-ce que finalement, on n'est pas en train de reproduire une décision qui se prend par quelques-uns, et qui finalement met à distance la plupart des citoyens, on se dit, ben oui, c'est à eux de s'en occuper. Merci.
Monsieur, et puis on ira chez monsieur avant de rendre la parole à Luc Blondieu et David Farrell.
Oui, moi j'ai une réflexion et puis deux, trois petites questions. Je m'appelle Emmanuel Deboc, je suis parlementaire depuis 3-4 ans. Mais je posais la question du constat qui pose justement la question un peu inavouable de nos débats ce matin. Est-ce que notre système finalement n'est pas un petit peu confisqué par les partis ? Est-ce qu'il n'y a pas une lutte contre une particratie peut-être trop forte qui atteint en fait ses limites et qui raréfie aussi l'offre qui empêche l'éclosion d'une concurrence. On voit souvent d'ailleurs les intervenants de les universitaires UCL, ULB qu'on a ici aujourd'hui expliquer d'ailleurs aux citoyens. Il y a un effort d'explication sur le seuil électoral, les mécanismes de surreprésentation des grands partis, etc. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui aspire à être membre d'une assemblée au mois de mai ne disposera de 4 fois moins de droits à la dépense électorale qu'un élu sortant. C'est pas correct, c'est pas juste. Donc il y a toute une série de mécanismes qui existent, et je trouve que les partis auxquels j'appartiens ne font pas cette autocritique et mériteraient de se poser cette première question fondamentale au-delà de la question de la participation citoyenne. Il y a aussi un problème de majorité d'opposition, de jeu majorité opposition, aussi un problème de jeu entre l'exécutif et le Parlement, au sein même d'une même majorité. On est tenu par un accord de majorité, souvent on vous le fait comprendre, et donc il y a cette confiscation aussi un peu permanente du système, et ça pose, me semble-t-il, justement la question de l'autocritique. Deux, la crise de légitimité. 80% des gens vont voter, mais 10 à 20% votent blanc ou nul.
Ça veut dire que finalement, vous avez une assemblée avec 60% d'électeurs qui se sont prononcés volontairement, mais finalement, une majorité, c'est 35-40%. Donc, vous êtes avec une majorité très faible par rapport au consensus général. Donc, on n'en parle pas beaucoup. Et il y a tout un débat intéressant en France sur la représentativité du vote blanc. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais je trouve que ça mériterait peut-être, et ça, c'est une question que je voulais vous suggérer. Sur les candidats citoyens, il y a une aspiration des partis politiques, justement, à aller pêcher des candidats dits d'ouverture, citoyens, des people, depuis le joueur de football jusqu'au présentateur météo, enfin bref. Toutes ces greffes marchent assez mal, et je voudrais vous entendre un peu là-dessus. Alors, le rôle des journalistes, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est essentiel, me semble-t-il, dans cette expression de la participation citoyenne, celui des citoyens. Parce que moi, je me pose quand même la question, en tant qu'élu, il y a très peu de gens qui assistent finalement au débat parlementaire, qui assistent. Alors, je ne sais pas s'il faut changer les débats parlementaires et les tenir en soirée pour permettre aux gens qui travaillent de pouvoir y venir. Mais quand on a les conseils communaux dans nos communes à 20h,